Bonsoir. Donc, merci beaucoup pour. Vous m'entendez bien, manifestement. Merci beaucoup pour cette invitation. Puis merci d'être venu pour m'écouter. Donc, je vais vous présenter un peu généralement en fait, mes perspectives de recherche. Et puis, j'ai choisi de centrer l'intervention sur la question de la trajectoire des actrices. Premier point, c'est pourquoi j'ai voulu aborder la pornographie comme un travail. Je pense que ça se distinguait de trois choses. D'une part, en fait, c'était pour l'idée que la pornographie ne pouvait pas être réduite à un esclavage, comme on l'entend parfois, alors que l'esclavage repose sur des rapports de force ou sur la contrainte. L'idée, c'était que produire un film aujourd'hui en France, c'était impliquer nécessairement un travail en commun entre des réalisateurs, des producteurs, des acteurs et des actrices, et que d'un point de vue sociologique ou ethnographique, l'hypothèse de jeunes filles qu'on forcerait systématiquement à passer devant la caméra était assez irréaliste. Pourtant, l'idée n'était pas de dire que c'était un travail sexuel. Comme vous savez sûrement, parce qu'il y a pas mal de débats sur la question en ce moment, il y a tout un courant qui vise à montrer que finalement, pornographie, prostitution sont des métiers comme des autres. En fait, quand je ne veux pas dire que mon boulot n'a pas été de certifier que la pornographie est un travail, mais c'est un peu différent de l'aborder comme un travail, comme un monde du travail, c'est-à-dire qui supposait finalement une organisation particulière, où il y avait probablement aussi une division du travail particulière, et qui permettait de poser des questions assez évidentes et ordinaires, mais finalement qu'on connaît, qui étaient assez méconnues. Comment sont négociés et calculés les salaires, est-ce qu'il y a des compétences particulières qui sont mobilisées pour réaliser un film pornographique aujourd'hui. Et d'aborder la pornographie ainsi permettait aussi de la distinguer de la prostitution, au sens où j'essaie de mettre en avant l'idée que c'est les films qui ont un travail de production d'image. Un des points de départ de mon enquête, c'était lors d'un entretien sur un tournage avec un acteur, avec qui donc je demandais, comme souvent, en quoi consiste son travail, et qui m'a répondu, mon travail, et ça n'a pas d'autre prétention, c'est de mettre en image les fantasmes des gens. Et donc, je pense que c'était une bonne définition, en fait, de l'activité pornographique, qui à la fois saisissait son aspect cinématographique, un travail de mise en image, donc qui supposait une collaboration, mais aussi une espèce de posture un peu en retrait par rapport à des prétentions auteuristes qu'on peut trouver chez certains pornographes, c'est-à-dire que ça n'a pas d'autre prétention que finalement mettre en image des fantasmes. Et alors on discutait, c'était au bord d'une piscine, il était nu entre deux scènes, et moi j'avais mon carnet à la main, et à un moment, il le reste de l'équipe, en disant, là je peux repartir, j'ai une demi-molle exploitable. Donc en l'occurrence, sa bite, j'ai une demi-molle exploitable, et donc c'était intéressant, puisqu'il y avait à la fois cet aspect de mise en image de la sexualité, mais aussi d'exploitation de la sexualité féminine, mais aussi masculine, où finalement les corps des acteurs étaient exploités dans le processus de production. Et enfin, le dernier point qui distingue la pornographie de la prostitution, c'est que typiquement la pornographie n'entre pas dans les débats qui ont lieu aujourd'hui sur la question de la pénalisation des clients, puisque finalement, on satisfait des désirs des spectateurs, mais que les spectateurs sont extérieurs au processus de production. Et c'est simplement leurs désirs qui sont supposés. Et finalement, en fait, la pornographie est encadrée sur les modèles du travail artistique, c'est-à-dire que acteurs et actrices pourraient être des intermittents du spectacle s'il n'y avait pas autant de travail au noir et s'ils arrivaient à faire autant leurs heures. Mais il y a bien des contrats de cession de droits d'image. C'est-à-dire que du point de vue de la loi, ce qui est vendu, ce n'est pas la sexualité, c'est l'image. Évidemment, c'est plus compliqué, mais ça soustrait en fait le monde de la pornographie aux questions qu'on pose traditionnellement à la prostitution. Donc, à partir de là, le premier idée, c'était d'aborder la pornographie comme un travail. Et alors, à ce moment-là, comment on constitue la pornographie en terrain d'enquête? Le premier point, c'était d'aborder donc la pornographie comme une organisation, et donc de ne pas se centrer uniquement sur les acteurs ou les actrices, qui sont souvent les personnes qui sont le plus convoquées, en fait, dans les débats sur la pornographie, mais de saisir les relations entre l'ensemble des personnes qui participent à l'élaboration d'un film. C'est-à-dire de ne pas, finalement, identifier les victimes, en particulier les actrices, comme souvent on a tendance à le faire. Il y a un ensemble d'études un peu américaines, ou bien aussi des reportages, qui systématiquement prennent pour objet les actrices, en occultant totalement la dimension collective de ce travail. Donc finalement, j'ai réalisé un ensemble d'entretiens, environ 80 entretiens, à la fois avec des acteurs et des actrices, mais aussi avec des techniciens, avec des journalistes spécialisés, des producteurs, des réalisateurs. C'était en effet, comme Richard le disait, une enquête par observation participante, donc pas en tant que en tant qu'acteur, ce qui aurait été d'une part difficile à plein de points de vue, à la fois dans le monde du porno et dans le monde de l'université, mais en fait, en participant à l'écriture de scénario, à l'éclairage sur un tournage de film porno, ce qui montre que de fait la division du travail est relativement faible, puisqu'évidemment j'y connais rien à l'éclairage de film. Et aussi un travail d'archive, en fait, au Centre national de la cinématographie, qui permettait de voir comment, en fait, l'État a constitué la pornographie comme une catégorie spécifique de régulation du cinéma, notamment avec la loi X dans les années 80, mais aussi un travail d'archives sur les revues spécialisées, en particulier de vidéo, ce qui était un truc assez intéressant, puisqu'on considère évidemment souvent que les pornos sont de simples supports masturbatoires, mais vu qu'il y a pas mal de revues dessus qui chroniquent, qui mettent en avant les actrices, qui chroniquent les films, un peu à la manière de ce que font les quais du cinéma ou premières pour le monde du cinéma, on a des matériaux assez riches pour saisir les frontières de ce monde. C'est le deuxième point, c'est que enquêter sur une organisation, mais on enquête aussi sur un monde qui est a priori assez opaque, c'est-à-dire qu'on voit les films, et finalement ceux qui les font restent souvent invisibles, et pour une part, en fait, hormis les actrices évidemment, et les acteurs tiennent à le rester. Et on a souvent cette image d'une pornographie qui fonctionnerait un peu à la manière de la mafia, sur un modèle des industries du sexe qui ferait énormément de profit et qui se soustrairait finalement au regard de l'État. En fait, ce que j'ai découvert assez rapidement, c'est qu'en effet, comme tu le disais, le monde du porno fonctionne plus comme une famille, c'est-à-dire qu'il y a des liens à la fois professionnels et personnels qui se nouent entre les acteurs au sens large, réalisateurs, producteurs, etc., qui souvent, non pas qu'ils s'apprécient comme dans une famille, mais par contre, ils se connaissent. Et donc finalement, mon enquête a fonctionné par boule de neige, c'est-à-dire à chaque fois que je rencontrais un réalisateur, un producteur, un acteur ou une actrice, je demandais un autre contact, et finalement, en fait, j'ai pu essayer de retracer le réseau du petit monde du porno français. Pour essayer de montrer que c'était un petit monde, en fait, j'ai aussi produit des données de cadrage, notamment à partir d'une vidéo donc, qui chronique depuis 1989, tous les films porno les films porno qui sortent sur le marché français, une bonne partie, et qui permettaient de montrer qu'en fait, contrairement à ce qu'on pouvait croire, il n'y avait pas une infinité, il y avait probablement un certain nombre de scènes ou de films qui circulaient, mais il y avait finalement peu de réalisateurs et peu de producteurs, notamment il y avait beaucoup de réalisateurs et producteurs qui faisaient un ou deux films, qui finalement, comme je l'apprendrai plus tard, pour qui ce n'était pas vraiment très, très profitable. Et il y avait quelques producteurs qui étaient au centre, en fait, de ce monde, qui avaient une position pérenne, qui établissaient les conventions de ce monde, et qu'on pouvait considérer finalement comme une élite, en fait. Et donc c'était ce petit monde organisé autour d'un noyau qui fonctionnait comme une famille, qui finalement se prêtait bien à l'analyse ethnographique, beaucoup plus qu'à une analyse quantitative. Enfin, enquêter sur la pornographie, évidemment, ça suppose d'enquêter sur la sexualité, et en particulier sur la sexualité féminine. Donc, c'était quelque chose qui a traversé, en fait, une interrogation qui a traversé cette enquête, puisque j'ai commencé par les réalisateurs et les producteurs pour éviter de rejouer le regard à la fois médiatique et sociologique sur les actrices, de considérer qu'il y aurait quelque chose, enfin, ce serait évidemment elle qu'il faudrait constituer un objet d'enquête. Mais évidemment, j'ai quand même réalisé pas mal d'entretiens avec elle. Et assez rapidement, en fait, l'image qui se dégageait de leur métier dans les entretiens se distinguait très nettement de l'image qu'on pouvait avoir des actrices porno qui, finalement, une image de l'esclavage, une vision assez noire, de jeunes filles, de pauvres filles, en fait, complètement perdues, qu'on forcerait dans ce métier. Et au contraire, dans une bonne partie des entretiens, en fait, sans nier les difficultés du métier, elle mettait en avant à la fois les désirs et les plaisirs. Je regarde mon truc. Les désirs et les plaisirs qu'elle mettait dans leur boulot. Et donc, c'est là-dessus, en fait, que je partirais, c'est-à-dire d'essayer de voir comment on peut entendre, en fait, les petits plaisirs du travail pornographique pour les actrices. Et notamment, si j'ai voulu insister là-dessus, c'est que vous avez sûrement suivi les débats sur la question de la pénalisation des clients prostitués, qui débat qui à chaque fois implique en fait une certaine image du travail sexuel et de la prostitution, et qui repose finalement sur des grosses oppositions entre liberté, des gens qui défendraient la liberté sexuelle, d'autres qui condamneraient l'esclavage, ou bien des gens qui défendraient la liberté des gens et d'autres qui postulerait l'aliénation hein, de jeunes filles ou la contrainte. L'idée aussi que les gens, que les individus sauraient toujours ce qu'ils ont envie de faire ou pas, ce qu'ils désirent ou pas en matière de sexualité. L'idée, c'est de développer deux points pour montrer que finalement ces visions sont assez naïves et ne rendent pas compte en fait, de la manière dont s'organise le métier d'actrice et de la manière dont fonctionne un marché du travail sexuel. Donc j'insisterai sur deux points. D'une part, comment, contrairement à la vision misérabiliste qu'on peut avoir du métier d'actrice, j'ai essayé de montrer que celles-ci étaient des femmes puissantes. Et deuxième point, de montrer comment le marché du travail, donc là non pas le métier, mais le marché du travail pornographique, s'organise autour de la figure de la débutante, c'est débutante à la fois professionnelle et sexuelle, qui bloque finalement ou qui encadre les trajectoires des actrices qui finalement contrarient leur puissance. Donc premier point, comment on peut envisager les trajectoires des actrices et qu'elles comme une acquisition d'une capacité d'agir. Donc, dans les entretiens, il y avait aussi quelque chose de, enfin, il y avait une chose qui m'avait frappé, c'est le fait qu'elles défendaient leur boulot finalement, mais aussi qu'assez systématiquement, elles inséraient leur entrée dans la porno, les actrices, en particulier les jeunes actrices, inséraient leur entrée dans la pornographie dans leur trajectoire professionnelle dans les petits boulots qu'elles avaient exercés auparavant. À chaque fois, elles mettaient en perspective ce que j'avais fait avant avec mon boulot de maintenant. Et c'était donc des trajectoires de femmes, souvent jeunes, hein, puisque entre 18 et 25 ans, des femmes parfois de classe de classe populaire, mais aussi de classe moyenne, c'est-à-dire que là encore c'était frappant, c'est-à-dire des jeunes filles qui avaient le bac, qui étaient à l'université, qui n'étaient pas nécessairement dans les marges du salariat ou en situation de grande précarité, et qui avaient à la fois une expérience diversifiée du marché du travail, mais aussi souvent une expérience négative du marché du travail. Je prendrai le cas de Célia, qui a 20 ans lorsque je la rencontre, et qui travaille dans la pornographie depuis seulement quelques mois. Et là, par exemple, son père est huissier de justice et sa mère est professeure de danse. Elle est montée à Paris après son bac et elle est pour commencer des études dans une école de communication. Et à son arrivée, pour gagner sa vie, elle travaille dans un club de striptease et elle est repérée dans la rue par un producteur de films pornographiques qui lui propose de tourner quelques scènes, ce qu'elle fait. Donc elle m'explique lors de l'entretien que le métier d'actrice lui semble plus épanouissant que d'autres petits boulots qu'elle a fait, notamment depuis qu'elle avait 16 ans. Elle me dit « J'ai été tout ce que tu veux, caissière, vendeuse chez Sephora, animatrice dans les centres aérés, vraiment les boulots basiques. McDonald's aussi, je crois que tout le monde y est passé. C'est des métiers qui ne rapportent pas bien et qui étaient franchement chiants. » Donc là, je dis par rapport au porno, au moins, je m'amuse, je baise, je me fais pas chier pendant 35 heures à sourire à des clients dont j'ai rien à foutre, mais c'est des boulots où tu restes tout le temps debout, où tu es payé un salaire de misère, tu reçois aucune considération. Bon, ce qui m'intéresse, c'est comme ce discours qui a un contre-pied par rapport aux images misérabilistes du porno, au sens où la pornographie permet finalement de revendiquer une indépendance professionnelle. Ce discours résonne très clairement avec d'autres franges du marché du travail, notamment les franges du marché du travail artistique, qui valorisent justement une indépendance même dans la précarité, et aussi une volonté d'expression de soi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que le porno, c'est nécessairement mieux que ces autres boulots. Enfin, je pense que ce discours est très clairement situé, hein, c'est un discours après quelques mois dans le porno, où comme les jeunes actrices, elles vont mettre en avant plutôt les aspects positifs que d'autres aspects négatifs, soit qu'elles ne perçoivent pas à ce moment-là, soit qu'elles n'ont pas nécessairement vécu, soit qu'elles ne veulent pas les mettre en avant. Et ce qui m'intéresse, c'est que l'entrée dans le porno prend sens, en fait, sur ce marché des petits boulots qu'on réserve à la jeunesse, notamment féminine, dans un contexte de déclassement aussi. Hein. Je pense que si Célia insiste clairement sur le fait que McDonald's n'est pas pour elle, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en effet, elle est issue d'une famille de classe moyenne, qu'elle a un certain capital culturel, et qu'elle estime que ces petits boulots ne lui conviennent pas. Finalement, la pornographie apparaît comme une porte de sortie de ces petits boulots, qui permet de refuser une position subordonnée dans le travail, mais qui permet aussi, de toute manière, l'engagement dans une activité déviante. Je pense que à bien des égards, en fait, l'entrée dans la pornographie pour une femme, c'est l'entrée dans une déviance féminine, au sens où, alors qu'on sait que les normes de la sexualité féminine sont plutôt celles d'une sexualité réservée, d'un lien assez fort établi entre sexualité, conjugalité et sentiment. Si on s'investit dans un répertoire sexuel beaucoup plus large, dans des figures de pute ou de salope, et il me semble qu'il faut aussi de saisir cette attirance, en fait, pour la déviance que revendiquent ces actrices. Deuxième point pour comprendre cette entrée dans la pornographie, c'est la question des savoirs et des savoir-faire qu'implique l'exercice de la pornographie. Donc évidemment, il y a toute cette question, est-ce que le métier d'actrice est un vrai métier ? Donc là encore, mon boulot, c'était pas de dire oui, c'est vraiment un vrai métier, mais c'était de montrer que de fait, un peu exactement à la manière dont Howard Baker peut appréhender la question des professions, qu'il y a bien des savoirs, même s'ils ne sont pas reconnus par des instances, par des institutions reconnues qui certifieraient des compétences ou des qualifications, il y a bien des savoirs et des savoir-faire qui sont impliqués dans l'exercice de la pornographie. Évidemment, il y a une dimension assez artisanale. Hein. Les films sont réalisés avec peu de budget, souvent moins de 1000 euros pour réaliser un film aujourd'hui en France, donc c'est ce qui est très peu. Ça veut dire que la majeure partie du budget va dans les salaires. Comme je vous le disais, moi, quand je suis arrivé lors d'un tournage d'une semaine en Espagne, j'ai deux jours avant le tournage, j'ai écrit le scénario avec une actrice, donc de fait, le scénario n'était pas essentiel. On m'a quand même demandé d'écrire le scénario et j'ai aussi fait l'éclairagiste. C'est-à-dire que finalement, la division du travail dans le cinéma est très importante, ici la division du travail dans le porno est au contraire très faible, il y a un cumul des postes. Pourtant, ça me semble important de se dire qu'il y a bien une expertise qui ne joue pas nécessairement au niveau technique, des techniques cinématographiques, mais au niveau sexuel. Et ça me semble important de la saisir, notamment parce que c'est un enjeu de lutte. Ça se voit très clairement dans la question de l'accès des hommes et des femmes aux postes de réalisation. Célia, en fait, comme d'autres, les autres actrices que j'ai rencontrées, avait émis l'idée à un moment de passer derrière, après quelques années de boulot, de passer derrière la caméra. Et de fait, à juste titre, puisque les droits d'entrée pour le métier de réalisateur sont relativement faibles. La majeure partie des réalisateurs que j'ai rencontrés ont appris le boulot sur le tas. Il y a même un certain amateurisme qui est revendiqué, puisque ça permet de mettre en scène une sexualité un peu plus authentique. Donc il y a une espèce de, de hiatus entre deux actrices qui voulaient passer derrière la caméra, et pourtant, le très faible nombre de réalisatrices, elles sont pas absentes, hein. Si on recense, en fait, à partir des magazines spécialisés, elles sont environ 10-12%. Donc, une part non négligeable, mais une part minoritaire. Et ce qui permettait, en fait, de reconnaître ce hiatus permettait d'inverser la question. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de pourquoi, en fait, des femmes s'engagent dans un métier qui était aussi vulgaire et sexiste, mais pourquoi il n'y a pas plus de réalisatrices. Donc là, c'est cette question il me semble que cette question se comprend par rapport à la question des savoirs et des savoir-faire sexuels, des techniques de mise en scène de soi, c'est-à-dire comment on fait pour tenir une sodomie, une pénétration anale de manière assez longue sans avoir mal, comment on fait pour faire une double pénétration. Comment on fait tout simplement aussi pour produire une figure excitante, ce qui de fait n'est pas évident. Et en fait, les actrices insistent souvent sur le fait qu'elles acquièrent un ensemble de savoirs et de savoir-faire sexuels. Ce qui m'intéresse, c'est que ces savoirs et ces savoir-faire sexuels ne sont pas vraiment finalement des compétences qu'elles pourraient reconvertir dans leur vie privée ou même sur le marché du porno. Je cite une réalisatrice qui était une ancienne actrice comme toutes les réalisatrices, qui m'explique finalement comment ces compétences acquises n'étaient pas évidentes à gérer. Elle dit, les hommes ont pas envie de baiser avec une encyclopédie du sexe. Il n'y a rien de plus frustrateur qu'une femme qui est censée en savoir plus, c'est ingérable. Déjà d'avoir été actrice, c'est ingérable, mais là c'est encore pire. Je vais diriger les acteurs, leur donner des ordres. Je suis incasable, sexuellement je suis incasable. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit que, à partir du moment où on reconnaît le fait qu'il y a des savoirs et des savoir-faire dans la pornographie et que les actrices finalement les acquièrent, rompant un petit peu de ce point de vue-là avec leur trajectoire sexuelle antérieure. Finalement, c'est ce qui est valorisé pour les hommes. C'est un truc qui a été bien mis en évidence par les études féministes. C'est savoir ces techniques sexuelles qui distinguent les hommes d'autres hommes, qui constituent les hommes en étalon ou en conjugant, finalement discréditent les femmes qui deviennent des femmes finalement qui en savent trop. Et troisième point sur la question de cette entrée dans la pornographie, c'est comment comprendre le désir de pornographie, y compris non seulement dans la trajectoire professionnelle, mais également dans la trajectoire sexuelle. Ça apparaissait dans l'entretien avec Célia, elle me disait « au moins je m'amuse, je baise ». Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle ne dit pas je baise et c'est génial, c'est boum. Enfin, je trouve que c'est une expression assez révélatrice. C'est au moins, je m'amuse, même si ce n'est pas évident, mais au moins je baise par rapport aux autres boulots. Et donc, bien sûr, quand on va sur un tournage et qu'on écoute les actrices, elles rendent compte d'expériences douloureuses, pas évidentes, en particulier la sodomie qui est assez crainte par une bonne partie des actrices, ou bien les gorges profondes, donc le fait de mettre le pénis de l'acteur au fond de la gorge, donc une pratique qu'on ne peut pas faire sans être forcé. Mais elle racontait aussi une part de satisfaction au travail et de satisfaction sexuelle au travail. Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est d'insérer ces discours dans les trajectoires sexuelles des actrices. Ainsi, une actrice me raconte sa première relation sexuelle avec un garçon qui était plus âgé qu'elle, alors qu'elle avait 14 ans. Et elle me dit, c'était pas la bonne personne, ça s'est mal passé. C'était un garçon qui m'exploitait sexuellement, un mec qui me forçait à faire des choses que je ne voulais pas. Le chantage sentimental, voilà, j'étais un peu faible, parce que le contexte faisait que j'avais pas le pouvoir, j'avais pas la possibilité de me défendre ou de dire non, ou même de songer à faire autre chose. Donc, pour moi, la sexualité, c'était quelque chose de très contraignant, de douloureux, de désagréable, d'éprouvant. Et ensuite, je me suis libéré peu à peu en prenant confiance en moi, en prenant confiance en mon corps. Et une fois que la confiance a été assez importante, j'ai tout dégagé, j'ai passé le cap, j'ai fait table rase. Premier point, en fait, on peut remarquer que cette situation d'inégalité sexuelle, qui est assez nettement liée à une inégalité d'âge, n'est pas exceptionnelle. C'est-à-dire je pense qu'il s'agit, je ne veux pas dire que les actrices porno gèrent les violences sexuelles ou les agressions sexuelles qui auraient été subies dans l'enfance, dans leur boulot. Les enquêtes quantitatives, en fait, montrent assez clairement que l'entrée dans l'hétérosexualité des jeunes femmes est relativement coûteuse, que le plaisir est rarement immédiat, et qu'elles acquièrent, en fait, que c'est que progressivement qu'elles s'approprient leur sexualité, et qu'il y avait environ 20% dans l'enquête contexte de la sexualité en France de 2006, il y avait environ 20% des jeunes femmes entre 18 et 25 ans qui avaient subi une agression sexuelle. Donc je pense qu'il n'y a pas à exotiser ces agressions. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans cet entretien, c'est qu'on a un point de vue rétrospectif sur ses propres, sur ses premiers rapports sexuels. Finalement, la sexualité qui est présentée comme forcée n'est pas la sexualité vécue dans le travail pornographique, mais ses premières expériences sexuelles. Donc finalement, la pornographie est alors conçue comme une scène sexuelle qui permet d'acquérir une confiance en soi, des techniques et un rapport à la sexualité qui ne soit pas caractérisé par la violence. Comment on peut en fait caractériser ce rapport à la sexualité? Je crois que la question n'est pas celle du consentement. Je crois qu'il ne s'agit pas de faire le partage entre d'un côté une sexualité consentie et de l'autre une sexualité non consentie, même si c'est en partie le cas. Mais il me semble que c'est l'accès à une certaine diversité sexuelle. S'oppose ici un script sexuel très restreint, un scénario sexuel très restreint, dans lequel finalement c'est le conjoint ou le partenaire qui est maître, et la valorisation d'une certaine diversité sexuelle, de petites variations dans la sexualité. Il me semble que c'est un point fondamental. On conçoit souvent en fait la sexualité comme un bloc monolithique, mais en fait, comme le montre l'anthropologie ou comme on peut le voir dans les enquêtes sociologiques, il y a plein de petites variations en fait de chacun dans la sexualité qui souvent sont pathologisées. Et je cite là un entretien avec toujours de cette même actrice donc, qui était entrée dans la sexualité par la violence, qui m'a dit plus loin à propos d'une scène. Donc je demandais aussi en fait c'est quoi les scènes qui sont particulièrement bien passées. Elle me répond: je me souviens d'une scène que j'ai faite, et c'était marrant parce que moi, quand j'ai fait une scène avec Manu Ferrara, qui est un acteur assez connu notamment parce qu'il fait des pornographies assez hard. C'était une scène bien hard, et je lui ai dit, moi je suis complètement contre la strangulation, la violence, les crachats sur le visage, et là en fait j'étais dans un tel état d'excitation que le mec qui me foutait des baffes, j'en redemandais. Et en fait ce type de discours n'est pas une exception. Une autre actrice qui elle aussi en fait avait, rétrospectivement me dit qu'elle avait vécu une entrée douloureuse dans la sexualité, me disait, j'aime bien la sensation d'être dominée, tout en sachant que je peux dominer le mec. Et là, j'ai eu l'impression que le gars, donc lors d'une scène, et là, j'ai eu l'impression que le gars avait le dessus, et j'avais jamais connu ça. Alors même qu'elle avait parlé d'agression. Du coup, j'ai aimé, mais j'aurais jamais cru. Et elle montre comment elle transpose ce type de désir dans sa sexualité conjugale. Elle continue, et avec mon homme, je lui ai pris la main, il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit serre, juste pour avoir la sensation d'avoir la main. Donc ce type de passage d'entretien sont des entretiens qui sont à la fois intéressants, et on comprend bien qu'ils sont un peu gênants, puisqu'on ne sait pas trop, c'est pas évident d'en rendre compte, sans faire l'éloge du masochisme féminin, et sans essayer de transposer une espèce de volonté de ces actrices d'être dominées. Je pense que même si en effet il y a des rapports de pouvoir, on voit qu'il y a un processus de découverte de désir dont ces actrices n'avaient pas conscience initialement, des désirs qui sont découverts par hasard au cours de la scène. Il me semble qu'on est face à des sujets féminins, des femmes qui ne connaissent pas leur propre désir. Et de ce point de vue-là, la pornographie peut être constituée comme un espace où certains désirs peuvent être explicités. Il me semble que ce processus ne se comprend que parce qu'on est dans un contexte hétérosexuel, de privatisation de la sexualité, c'est-à-dire que la sexualité est réservée souvent, enfin, la majeure partie du temps réservée à une sphère privée, mais aussi de mise en forme masculine de la sexualité féminine. De ce point de vue-là, l'entrée dans la pornographie et l'entrée dans la scène pornographique va être conçue comme l'entrée dans un espace qui favorise la réflexivité sur ses propres désirs, la découverte de nouveaux plaisirs. Et on peut comparer, enfin, je pense que ce qui est intéressant, c'est dans des contextes hétérosexuels, le faible nombre en fait, d'espaces qui permettent ce type de pratique, qu'on peut retrouver par ailleurs, qui sont des espaces comme ceux des backroom gays ou des réunions féministes et queer. Ce qu'on remarque aussi, évidemment, c'est que ces désirs ne sont pas hors des rapports de pouvoir. On pourrait plutôt dire qu'ils sont le revers des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. On voit que deux actes peuvent être assez proches, hein, des actes de strangulation, mais parce que la pornographie est un travail de mise en scène, se met en place toute la distance entre des rapports qui sont imposés et d'autres qui sont joués. Donc, pour conclure sur ce point, je pense que l'idée, donc, c'était de décrire des actrices comme des femmes puissantes, des femmes qui ont la puissance de s'investir dans une activité déviante et de déroger aux normes de la féminité, dont la puissance est aussi celle de subir un travail difficile où leur corps doit bien souvent se plier au fantasme des spectateurs, mais aussi une puissance qui consiste en l'acquisition, enfin, en des manières de s'expérimenter à la fois affectivement et corporellement. Dans les quelques minutes qui me restent, je vais essayer de montrer comment après, pour continuer la trajectoire, comment la question de cette puissance cette puissance est contrariée en fait par le fonctionnement même du marché du travail. En regardant les magazines spécialisés, haute vidéo en particulier, il y a quelque chose de frappant qui ne seront pas manqués de vous frapper vous aussi, c'est qu'il y a un turnover, on voit qu'il y a un turnover très important des actrices, c'est-à-dire que chaque mois, haute vidéo met en couverture de jeunes actrices, des débutantes, les anciennes sont remplacées très rapidement, tandis qu'à l'inverse, en fait, pour avoir vu donc pas mal de films au cours de mon enquête, les acteurs sont très souvent les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'acteurs en fait dans le monde du porno français, tandis qu'il y a un vieillissement, il y a un processus de vieillissement très rapide des actrices. Alors comment comprendre ce vieillissement sexuel? Donc on peut le voir en fait assez clairement dans l'évolution des salaires. Systématiquement, les actrices me racontaient leur difficulté à imposer leur tarif. Je prends l'exemple de Charlotte, qui est une actrice de 23 ans, que je rencontre alors qu'elle a débuté sa carrière un an plus tôt, et donc qui avait une carrière comme une partie des jeunes actrices ascendante assez rapide, qui avait accédé à une notoriété assez rapidement. Elle avait même réussi à avoir une place sur le marché du travail pornographique international en Hongrie, et pourtant elle n'arrive pas à augmenter ses tarifs. Elle m'explique lors de l'entretien, pour la première scène j'étais payé 300, c'était une vaginale je crois, pour une débutante c'était bien 300, le problème c'est que je suis encore payé 300 à l'heure actuelle, alors que mes tarifs sont passés à 500 la vaginale et 700 l'anal, 900 la double. Et le problème c'est que les réalisateurs ne veulent pas payer des sommes comme ça, alors que c'est une somme normale pour une actrice qui est très médiatisée. Et j'ai un vrai problème avec ça. Et je lui dis, bon, c'est-à-dire un vrai problème, ben, ils ne veulent pas me faire tourner si je ne baisse pas mes tarifs. Et donc je lui demande, donc je tourne pour 300 euros, voilà. Donc on voit que Charlotte explique ici une échelle des rémunérations qui est en fait commune aux autres actrices, qui sont souvent payées pour une scène, selon les pratiques qu'elles effectuent, donc un vaginal, anal, double pénétration. Et qui sont aussi payés pour les plus connues d'entre elles selon leur notoriété. Ce qui m'intéresse, c'est qu'alors que l'acquisition d'une notoriété permet à Charlotte de prétendre à des salaires plus importants, elle est obligée d'accepter des scènes où elle est payée 300 euros. Une autre actrice de 21 ans note dans un entretien que lorsqu'une actrice monte, comme elle dit, elle peut augmenter ses tarifs, mais ça suscite toujours des réticences de la part des réalisateurs et des producteurs parce qu'ils veulent baraquer, elle me dit. Donc on voit que les salaires féminins sont l'enjeu d'une lutte qui ne se ramène pas, à mon avis, à la reconnaissance d'une compétence, mais parce qu'il y a une autre échelle de valeur qui est celle d'une échelle de nouveauté, dans laquelle la nouveauté est valorisée. C'est la définition du juste prix des actrices, de la somme normale, hein, c'est des expressions qui reviennent souvent, ce que Charlotte appelait mes tarifs, dans cette définition du juste prix qui est centrale. C'est-à-dire que si du point de vue des actrices, leur qualification justifie un salaire plus important, du point de vue des réalisateurs et des producteurs, elles sont dévalorisées par les nouvelles venues sur le marché. Ce qui me semble important, c'est qu'ici se mêlent des logiques qui sont à la fois professionnelles et sexuelles, c'est-à-dire que cette dévalorisation rapide, ce vieillissement rapide des actrices, n'a pas pour seul enjeu une réduction des coûts de production des films. C'est-à-dire que le script, ce qui me semble important, c'est la puissance dont je parlais, alors que le script pornographique souvent valorise une dissymétrie entre acteurs et actrices. C'est-à-dire qu'on va mettre des jeunes filles avec des acteurs confirmés, des débutantes avec des pros. Or, en fait, le travail des actrices leur permet d'acquérir des compétences sexuelles qu'elles ne possèdent pas initialement. Charlotte me dit lors d'un entretien que d'un point de vue professionnel comme privé, il y a, je cite, plein de choses qui la propulsent au-dessus de la moyenne des filles dans les rapports sexuels. Donc, elle m'explique comment elle peut faire une fellation de 15 manières différentes, mais aussi comment, comme le disait la réalisatrice précédemment citée, ça déstabilise un peu son copain de faire face à une femme experte sexuellement. Donc il me semble qu'il y a une contradiction qui est centrale dans ce marché du travail. Un marché du travail pornographique qui valorise les débutantes et qui produit des actrices expertes. Et donc on voit comment cette valorisation de débutantes a pour effet de fragiliser la position des actrices confirmées sur le marché du travail. Donc Charlotte, pour sa trajectoire, je l'ai suivi en fait au long de sa carrière, dans l'entretien, elle me dit qu'elle était partie faire un second voyage à Budapest, où il y a pas mal de boulot, mais qu'elle n'a toujours pas réussi à augmenter ses tarifs. Elle me dit, j'ai dit que maintenant les gens me connaissent, que j'ai une réputation, que je sais faire des trucs plus hard que la plupart des Roumains et des Tchèques. De toutes les filles, j'étais la seule à savoir fister et à pouvoir être fistée, donc à mettre son poing dans le vagin. Et j'ai dit, je veux ces tarifs. On m'a répondu, on en a marre des filles qui font les petites princesses. Si tu veux pas ces tarifs-là, il y a plein de filles qui seront ravies de travailler pour ce genre de tarifs. Donc, je pense que les actrices ne puissent pas imposer leurs tarifs et un mécanisme assez déterminant, parce que ça contribue à maintenir les actrices qualifiées du point de vue de la mise en scène des images dans une position économique de débutante. C'est-à-dire que maintenir les tarifs au plus bas niveau possible, c'est mettre en place ce que la société du travail appelle un processus de déqualification, c'est-à-dire que les compétences des anciennes sont à la fois mobilisées, puisque c'est bien elles qui font la scène, et niées, puisqu'elles ne se retrouvent pas dans les salaires. Il y a ce double aspect, dans tous les entretiens que j'ai cités, on peut lire à la fois d'une part l'acquisition de techniques, les moyens de créer une figure fantasmatique efficace, et le refus par les pornographes de reconnaître ces techniques. On peut même aller plus loin, je pense que valoriser les débutantes, donc ce qui est à la fois souvent présenté comme correspondant au désir normal en fait des spectateurs, c'est également embaucher une main-d'œuvre jeune, ravie, comme le disait l'interlocutrice de Charlotte, de travailler pour des tarifs inférieurs. Et il me semble que si ces jeunes filles sont ravies de travailler pour des tarifs inférieurs, c'est qu'elles ne connaissent pas les ressorts d'un marché du travail qui est largement opaque, et donc finalement qu'elles sont peu susceptibles de remettre en cause les conditions de travail telles qu'elles sont définies par les réalisateurs et les producteurs. On retrouve un processus déjà notamment chez dans les fast-food, où embaucher des jeunes permet d'embaucher finalement une main-d'œuvre malléable. Charlotte le soulignait, disait 300 c'était bien pour une débutante. Lors d'un autre entretien, Emma, donc une autre actrice de 21 ans, qui revient, elle, sur l'évolution de ses salaires. Donc elle tourne une première scène avec 5 partenaires pour 150 euros. En plus, c'était des vieux. Ils avaient 50-60 ans. Puis des vieux pour le marché, pour le porno. Mais, puis une deuxième scène en couple pour 250 euros. Et lors de ces premières scènes, elle m'explique qu'elle ne discute pas ses tarifs et accepte finalement ceux qu'on lui propose. Elle me dit, moi j'étais ok, je trouvais ça énorme, quoi. Enfin énorme, mais non. Avant d'entrer dans le milieu, je pensais que tu gagnais vraiment plus que ça. Mais dès que j'ai vu que tu commençais à 150 euros, tu as dit que 250 euros c'est bien payé. Et au final, tu t'es dit que c'est la grosse merde par rapport à maintenant. Donc on voit que le salaire dépend moins de la tâche que les actrices effectuent que de sa connaissance, à la fois de sa notoriété, mais surtout de sa connaissance des règles salariales. Le fait que ces règles soient opaques permet aux pornographes de sous-payer des actrices jeunes qui ne bénéficient pas de la valorisation dont elles sont l'objet. C'est-à-dire qu'il y a bien une valorisation explicite des débutantes, mais que les jeunes actrices rentrant sur ce marché ne connaissent pas nécessairement. Mais par contre, cette valorisation des débutantes permet de disqualifier les prétentions salariales des anciennes. Il reste un peu de temps. Je terminerai juste sur le parcours d'une actrice qui illustre ce double jeu entre ancienne et débutante et qui montre comment finalement ce double jeu, cette définition des salaires et des conditions d'emploi permet en fait de disqualifier et de produire les débutantes. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que la débutante n'est pas captée comme un ensemble de viviers qui correspondrait parfaitement en fait au désir des spectateurs, mais qu'il y a une production des débutantes par les pornographes qui valorise les jeunes filles comme à la fois comme jeunes filles inexpertes et comme main d'œuvre malléable et qui permet de disqualifier en fait les actrices expertes. Je rencontre Eva en 2009, elle a 37 ans, et elle travaille dans la pornographie depuis une dizaine d'années. Donc elle a commencé sa carrière relativement tard par rapport aux autres actrices, qui commencent plus aux alentours de 20 ans. Mais elle a rapidement acquis une certaine notoriété, et aujourd'hui, c'était, quand je l'ai rencontrée, donc aujourd'hui, c'est l'actrice reconnue. Et quand je la rencontre, elle vit de son travail dans la pornographie, mais aussi de shows en discothèque, c'est-à-dire que la notoriété qu'elle a acquise par la pornographie lui permet de diversifier ses activités. Et pourtant, on discute et elle reconnaît que sa carrière est en train de s'éteindre, comme elle dit. Et au cours de l'entretien, elle souligne les évolutions des conditions d'emploi des actrices au cours de ces 10 années de carrière, et en particulier l'arrivée sur le marché d'actrices jeunes. Donc elle m'explique, les filles qui commencent aujourd'hui travaillent à des tarifs défiant toute concurrence. C'est même assez impressionnant. Elles ont l'impression qu'elles vont gagner beaucoup d'argent, mais pas du tout. Elles gagnent peu d'argent, elles travaillent gratuitement, on leur demande beaucoup de choses gratuites. Donc je lui demande, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le marché valorise les actrices jeunes, et pas nécessairement parce qu'elles sont jolies. Comment tu as géré ça, toi? Elle me dit, c'était très difficile, je ne suis plus du tout médiatisée, par exemple, je trouve ça assez désolant. Aujourd'hui, les filles sont toutes concurrentes, à l'époque, on était toutes copines, collègues. Et je lui demande sur quoi se joue la concurrence. Elle me répond, l'une va travailler pour telle production pour ce tarif-là, l'autre va baisser ses tarifs, elles se mettent des bâtons dans les roues. Moi aussi, au début, je me suis fait avoir, mais pas à ce point-là, elle me dit ça en riant. Je me suis dit que je n'étais pas aussi bien payé que ce que j'aurais dû, mais pas à ce tarif-là. À l'époque, il y avait une nouvelle qui arrivait tous les 3 ans. Moi, je suis arrivé pendant 3 ans, il n'y avait personne. J'étais la nouvelle pendant 3 ans. Maintenant, toutes les semaines, il y en a une qui arrive. Je pense que ce qu'Eva présente comme une évolution historique des conditions d'emploi des actrices, où il y aurait de plus en plus de nouvelles, où la concurrence serait accrue, doit également, et je pense surtout, être compris comme une dimension structurelle du marché du travail des actrices, une dimension structurelle que Eva elle-même perçoit de plus en plus clairement au fur et à mesure où elle avance dans sa carrière. En effet, on voit bien que Eva dessine une image assez enchantée en fait du monde du travail pornographique. et de ses premières années dans le monde du travail pornographique, et Major Chanté qui correspond en fait au début où elle était considérée comme une débutante. Et l'instauration d'un rapport de concurrence de plus en plus marqué apparaît surtout comme une mise en concurrence subie par Eva au fur et à mesure où elle quitte le statut de débutant pour devenir ce qu'elle appelle une ancienne. Je pense qu'il ne faut pas opposer deux états du marché du travail, l'un il y a 10 ans, l'autre aujourd'hui, mais deux positions sur le marché du travail, celle de nouvelle et celle d'ancienne, deux positions qui déterminent la perception des rapports de travail et aussi des rapports de pouvoir par les actrices. Il me semble que d'autre part, ce qui est perçu comme une concurrence voulue par les actrices, hein, Eva, comme notre actrice, souligne que c'est les actrices qui se font concurrence entre elles, est plutôt un des aspects de la gestion par les réalisateurs et les producteurs de la main-d'œuvre féminine. En effet, les pornographes peuvent profiter de la position de faiblesse des débutantes d'un côté et dévaloriser les actrices confirmées de l'autre et donc favoriser cette mise en concurrence des actrices. Eva, d'ailleurs, elle note en riant qu'elle aussi, elle se faisait avoir au début. Donc on voit que ce qui est d'abord perçu comme un choix sur le marché du travail est finalement présenté comme une arnaque lorsqu'elle en est la victime. Donc je terminerai là-dessus. Pour souligner, on voit que l'intérêt, en fait, de souligner que l'entrée dans la pornographie, l'acquisition de savoir et de savoir-faire sexuel et d'une plus grande réflexivité, à la fois par rapport à la sexualité, mais aussi on le voit par rapport au rapport de genre, ne doit pas conduire à valoriser, mon objectif n'est pas de valoriser le métier d'actrice comme enfin un instrument d'une libération des jeunes femmes, mais permet d'éclairer, en fait, de montrer. D'inverser la question à la question, c'est pas pourquoi elle rentre dans un métier aussi difficile, même si c'est en partie le cas, mais pourquoi finalement ce métier les exclut aussi rapidement, y compris pour celles qui veulent y rester. Je pense que l'exclusion des réalisatrices et le fonctionnement du marché du travail relève clairement d'une gestion politique de la main-d'œuvre féminine qui est informée en fait par des représentations à la fois sexuelles et sexuées. Il s'agit de disqualifier des femmes puissantes, de valoriser des débutantes pour maintenir un contrôle masculin dans le travail de production de fantasmes. Je vous remercie.